décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 43, salut Manu.
Salut Lucille.
Salut Luc.
Eh bien, Lucille, tu es libriste depuis combien de temps ?
Une bonne vingtaine d'années. J'étais à Paris 8, donc on a commencé très tôt le libre.
Voilà, Paris 8, hein, qui est l'université où il a pris l'aîné.
Voilà.
Et tu faisais partie des premières. Et c'est par toi que j'ai découvert le libre, puisque tu es ma sœur, en fait.
Voilà.
Et donc, tu es de passage à Paris. Mmh. Et on est content de t'avoir dans le podcast. Donc, Manu, qu'est-ce qu'on a au sommaire ?
7 articles principaux.
Science et avenir, un tableau peint par une IA vendu 432 500 $ à partir d'un code source emprunté sur le web. Un article de Sarah Sermondadaz.
Le nom est compliqué.
Oui.
Donc, c'est une histoire intéressante. Beaucoup d'argent, c'est vendu aux enchères. Mais tout ça, c'est basé sur une intelligence artificielle dont le code, à l'origine, est libre. Donc, c'est intéressant parce que c'est un peu novateur. Je pense qu'on en reparlera dans d'autres podcasts dans le futur.
Le Monde.fr, Apple et Samsung sanctionnés en Italie pour obsolescence programmée, un article de la rédaction.
Donc, une institution européenne, d'un État européen, qui sanctionne pour des mauvaises pratiques, c'est pas mal, parce que l'obsolescence programmée, on n'aime pas du tout.
ZDNet France, la FFDN demande à Orange d'ouvrir sa fibre à tous les opérateurs, un article de APM.
Donc, il s'agit d'opérateurs Internet associatifs qui veulent accéder à la fibre, donc à des
parce
moyens d'aller plus vite.
Ils étaient cantonnés à l'ADSL, ils ne pouvaient pas avoir le très haut débit. Numérama, qui est Henri Verdier, le nouvel ambassadeur pour le numérique, un article de Julien Lausson.
Donc, Henri Verdier, c'est le nouveau directeur du DINSIC. Alors, je ne sais plus l'acronyme, mais en gros, c'est le DSI de l'État. Donc, le directeur informatique de l'État, et ses choix vont avoir plein d'impact, notamment le référentiel général d'interopérabilité, qu'on suit pas mal.
La Gazette.fr, Civic Tech, des prestataires au business model à risque, un article de Gabriel Zigani.
Donc il s'agit d'éléments novateurs dans l'État pour faire changer certaines choses de l'administration. Donc il y a des enjeux parce que ce sont des entreprises et que ces entreprises vont avoir accès à des données liées aux citoyens. Donc il faut surveiller tout ça et en général ils font du libre, donc c'est plutôt pas mal.
Développé.com, Richard Stallman adopte une alternative au code de conduite pour le projet GNU, un article de Michael Guillou.
On est dans la saison des codes de conduite, on a fait l'émission la semaine dernière sur le sujet. Mais là, c'est un code de conduite qui se veut plutôt positif, c'est-à-dire on encourage les gens à avoir des comportements positifs pour aider à intégrer des communautés plus diverses, plus agréables.
Plutôt que d'interdire. L'ADN, l'économie collaborative, état des lieux, un article de Nastasia Adjidji.
Donc ça parle d'économie collaborative, quelque chose dans lequel le logiciel libre se trouve. C'est un sujet très vaste. Je vous recommande d'aller lire l'article qui est plutôt intéressant et qui va vous parler de plein de choses, notamment d'Uber et de tous ces modèles-là.
Ok, donc notre sujet de la semaine ne sera pas en lien avec un de ces articles. On avait envie de réagir sur le succès d'une application qui s'appelle
Youcare.
Donc c'est une application qui permet de savoir ce qu'il y a dans les produits qu'on achète.
Une application de téléphone portable.
De téléphone portable, on scanne le code barre et ça nous renvoie des infos en disant si le produit il est bon pour la santé ou pas. Si le produit n'est pas référencé, on peut le référencer soi-même avec l'application et alimenter la base de données. Donc cette appli a la promotion dans les grands magasins, etc. Ça n'est pas une appli libre, mais elle a un succès assez fulgurant. Par contre, pourquoi on en parle ?
Parce qu'elle est basée sur des données qui viennent d'un projet libre dont on a déjà discuté auparavant, qui s'appelle Open Food Facts.
Donc Open Food Facts, ça fait sensiblement la même chose.
C'est exactement le point de départ.
Voilà, on a une appli mobile qu'on peut installer sur son téléphone et pareil, on peut avoir des retours sur les produits et l'alimenter. Ce projet, il existe depuis maintenant quelques années. C'est un très très beau projet libre mené par des bénévoles. Hein. C'est une association et des gens qui font ça sur leur temps libre et qui ont fait du très très beau boulot et qui maintiennent ça depuis des années. Donc vraiment un chapeau bas.
Ils ont référencé 600 000 produits, ce qui est considérable et ça marche tellement bien. Donc Open Food Facts et leur base de données, ils sont en lien même avec les producteurs, donc les gens qui mettent leurs produits à Carrefour et Auchan et autres. Ils travaillent de main dans la main avec Open Food Facts pour aller plus vite, pour être plus fiable.
Et donc, Yuka et d'autres applications, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme appli pour ne pas leur faire de la pub plus qu'aux autres ?
Alors, il y a Foodvisor, ScanUp et DateLimit. En tout cas, c'est ce qui est listé. Là, je suis en train de regarder Wikipédia.
Voilà. Donc, ils utilisent la base de données, donc ils récupèrent ces données-là.
Et ils y contribuent, c'est-à-dire que ce ne sont pas juste des parasites, on pourrait dire, ce ne sont pas juste des gens qui utilisent quelque chose sans reverser. Non, quand les gens travaillent avec ces outils-là, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont rescanner éventuellement, va être reversé à la base de données initiale. Parce qu'elle est couverte par une licence intéressante qui s'appelle la licence ODBL, qui est une licence assez protectrice.
Voilà, c'est la même qui est utilisée sur OpenStreetMap, hein, le truc de Carto. C'est une licence dite copyleft. Donc Lucile, copyleft.
Vous pouvez utiliser ces données comme vous voulez, les augmenter ou les réduire. Par contre, ce que vous ajoutez, vous êtes obligé de le redistribuer.
Sous la même licence.
Sous la même licence.
Donc ça veut dire que les libertés dont on bénéficie, on a l'obligation de les garantir aux gens qui passeront derrière nous. Et donc ça, c'est un mécanisme très important, puisque certaines licences libres ne sont pas au copyleft, et où on prend, et puis on redonne rien en échange, on n'est pas obligé. Et donc là, c'est assez intéressant, parce qu'on imagine que toutes ces applis qui sont mises en place par des boîtes, hein, Yuka derrière, c'est la grande distribution.
Donc elles ont un impact marketing considérable.
Effectivement. Quand ils ont lancé leur projet Open Food Fac, c'est là depuis un petit moment, ils ont deux options, c'est soit ils font leur petit truc dans leur coin en démarrant de zéro, soit ils prennent les 600 000 articles d'Open Food Facts en disant « bon ben, ça nous ferait gagner vachement de temps et vachement d'argent que de bénéficier de tout ça, mais du coup on est également obligé de contribuer et de reverser ce qu'on a voilà. proposé. »
Et rentrent dans le collaboratif, plus ou moins malgré eux.
Là, manifestement, ils le font plutôt pas mal. Et sur le blog d'Open Food Facts, hein, ils disent qu'ils travaillent avec eux, ils travaillent avec Yuka. Donc manifestement, ils ont fait le choix d'y aller. Et c'est assez rigolo de voir que, et c'est l'intérêt du livre, c'est une belle illustration, c'est pour ça qu'on voulait en parler, c'est de voir comment ces deux projets qu'on pourrait considérer comme concurrents, et où dans un schéma normal, ils devraient se foutre sur la gueule et se détester, et puis dire que l'autre est un enfoiré.
De la compétition bien voilà. dure. Hein.
Et ben, ils collaborent, ils travaillent ensemble. Donc Open Food Facts donne pas mal d'infos. Yuka est plus simple dans les infos qu'ils délivrent.
Oui, je crois comprendre que leur note, en gros, ils ont une note, alors qu'Open Food Facts, ils ont plutôt un ensemble de critères qu'on peut étudier, qui pointent sur plusieurs domaines, mais c'est plus compliqué. Alors Yuka,
il y a plusieurs infos, ouais.
Voilà, mais Yuka a quasiment 7 millions d'utilisateurs réguliers, et c'est tellement important qu'ils en parlent à la télé, ça passe dans les journaux télévisés, il y a eu des reportages dédiés à ces applications, parce qu'on dit Yuka, mais il y a des autres, hein. Et les gens, vraiment, sont dans les supermarchés en train de scanner les produits qu'ils achètent. Ça a l'air d'être considérable.
C'est peut-être leur premier pas vers le collaboratif.
Oui, un collaboratif un peu ouvert, où on travaille ensemble et on n'est pas juste dans un esprit
passif et de consommation, mais de participation.
Voilà, et d'une participation qui est une base libre. Et donc les gens ne sont pas nécessairement au courant. Mais moi, ça m'est arrivé ces dernières années de voir des gens qui disent, surtout quand c'était la mode du collaboratif il y a peut-être une dizaine d'années, quand Wikipédia commençait vraiment à être connu, et il y a pas mal de gens qui disent « Ouh, bah, c'est bien, je peux avoir du travail gratos !» Et tu te disais « Mais tu vas mettre ça en libre ?» Ah, je dis, bah, non, ce sera fermé, ce sera à moi !» Et du coup...
des profiteurs.
Voilà, des profiteurs. Là, on n'est pas dans cette démarche-là, et c'est vraiment très bien. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est le monde de la grande distribution. Ils n'ont pas la réputation d'être les plus humanistes, et pourtant, ils contribuent.
Et ils contribuent de manière active. Alors, on pourrait dire, si on avait un esprit un peu tordu, on va dire, c'est qu'ils contribuent, ils participent, ils collaborent, mais ils gardent une forme de contrôle en faisant leur propre application au-dessus d'Open Food Facts. C'est un moyen, alors aujourd'hui positif, mais c'est un moyen de garder un contrôle.
On pourrait imaginer qu'il y ait du marketing agressif qui fasse des données qui pour pourrir la réputation d'un concurrent.
Donc, des trolls, par exemple.
Voilà, des trolls, comme on peut voir sur d'autres projets. Ou
en politique.
Comme Wikipédia.
Wikipédia, etc. Ils ont raison de se protéger. Après, est-ce qu'ils ne vont pas être un acteur eux-mêmes négatif ? Il faudra surveiller ça.
L'intérêt, c'est que c'est transparent. C'est-à-dire que, alors, bon, d'une part, la différence avec un Wikipédia, c'est qu'on a des données ici qui sont très objectivables.
Et oui, il y a des mesures, il y a quand même des critères, il y a des gars qui sont derrière.
Il y a des obligations légales d'étiqueter, de donner les ingrédients. Ensuite, il y a des études sur la dangerosité avérée ou supposée des additifs.
Ils ont pas mal de références à tout cela. Et il y a des journalistes qui analysent tout ça.
Voilà, et donc, du coup, notamment pour Yuka, il y a des journalistes qui contestent ça en disant qu'ils ont quelques références contestables, pas fiables. Après, à chacun de se faire ses opinions. Donc, on a déjà ce sujet-là. On a sur tous ces ingrédients déjà une culture par la législation de la transparence où les infos existent et c'est obligé de les mettre. Donc du coup, effectivement, le fait de les partager tout, c'est pas nécessairement problématique pour eux.
Mais il y a une analyse en plus. Il y a une analyse qualitative qui est remontée par les applications. Open Food Facts va te dire, attention, il y a un cancérigène reconnu ou possible dans le produit que vous êtes en train d'acheter. Et donc, décidez en conscience de votre achat. Est-ce que vous voulez arrêter, passer à autre chose ou continuer en sachant que... Voilà.
Et si jamais on a un projet qui part complètement du mauvais côté, je sais pas moi, un Open Food Facts qui se ferait noyauter et qui commencerait à...
Oui, ce sont des bénévoles, hein.
Ouais. Et qui commencerait à faire des trucs qui soient plus factuellement justes, on a toujours cette possibilité avec le libre de forquer, comme on dit.
Faire une fourchette.
Voilà. et de dire, c'est que de l'information, j'ai le droit de prendre l'info et de me barrer de mon côté et dire, bah, je vous fais plus confiance, je veux plus bosser avec vous.
On mettra des critères plus éthiques sur la récupération des données, un filtrage ou autre, mais on a les moyens de recommencer sans partir de zéro le projet.
Voilà. On peut se fâcher et chacun part avec une copie de la base et refait ce qu'il veut dans son coin. Alors, justement, par rapport à ces données, sans lui parler, c'est un des sujets qui est intéressant, c'est que bah, y a contribution de UK et autres, mais ça va pas sans poser quelques soucis.
Oui, c'est que quand vous avez un produit qui n'est pas encore enregistré, on vous propose de collaborer en fournissant, en remontant les informations. Donc vous faites un petit scan avec votre téléphone, la photo est envoyée, analysée comme on peut avec l'outil informatique, mais ça ne remonte pas une qualité parfaite. Hein. Loin de là, il y a pas mal de soucis. Et sur la quantité de produits, donc des centaines de milliers, eh bien, les petits gars d'OpenFootFacts, ils sont surchargés de boulot.
Ouais, et puis a priori, les gens qui utilisent UK font un peu ça comme des cochons. La petite appli OpenFootFacts de Libris, les gens font ça très consciencieusement. Quand on commence à toucher le grand public, c'est moins évident.
Donc moi, je trouve ça très positif pour la consommation en grande surface quand on ne peut pas faire autrement, mais on pourrait rajouter des critères éthiques pour orienter la consommation vers des produits qui orientent une société plus égalitaire.
Moi, et plus écologique.
Et plus écologique. Mais je pense que la vraie solution, c'est les circuits très courts. À Toulouse, on peut vraiment se le permettre facilement. Et donc moi, j'ai ma relation avec ma fermière le samedi matin qui a des produits bio excellents et avec qui j'ai un relationnel super d'égal à égal, sympathique et tout. Et je préfère ce type de société, mais je trouve que ce type d'outil permet de faire évoluer la société dans laquelle on vit. Donc on ne peut pas faire une rupture comme ça.
Pas du jour au lendemain. Le grand soir dans la nourriture, ça va être compliqué.
Non, et puis il y a un peu des choses qui sont sympas de l'autre côté aussi. Donc c'est vraiment un truc intéressant. Et puis derrière tout ça, il va y avoir les monnaies libres ou d'autres types d'échanges avec des gens locaux de confiance et tout, avec la blockchain ou autre. On peut imaginer plein d'ouvertures qui vont vraiment changer le mode de consommation et la société qui va avec.
Alors, il a déjà commencé à changer, puisqu'on sait qu'en fait, on est en déconsommation. Les Français consomment moins, dépensent toujours autant, voire un peu plus. Et ce qui veut dire qu'ils sont en train de chercher la qualité. Et on peut supposer que la grande distribution s'empare du sujet parce qu'ils ont un œil rivé sur la demande des clients.
Et que s'ils ratent le sujet, c'est risqué pour eux.
Voilà. Alors, ce que je trouve rigolo, et pour revenir à l'informatique, c'est que toute cette transparence dont on bénéficie dans le domaine alimentaire, en vertu de la réglementation, eh ben, si on fait le parallèle avec l'informatique, on n'a pas ça. C'est-à-dire que entre les logiciels propriétaires qu'on a, les services, on ne sait pas ce qui se passe, c'est pas transparent et c'est pas étiqueté. On n'a pas ça. On pourrait imaginer avoir un
Open Food Facts sur autre chose que
voilà, de l'informatique et de dire voilà, alors on a notre circuit court hein, avec tous les trucs que Framasoft met en place et tous les chatons et toutes les assos, toutes les structures qui rentrent dans cette démarche-là et où on peut rencontrer les gens, on peut les connaître, on peut rentrer dans les projets, mais aujourd'hui voilà, on est aveugle et donc fait de la malbouffe informatique.
On a des services publics qui nous permettent, par exemple, sur les problématiques de sécurité, de valider certaines versions de logiciels libres, hein, parce que quand c'est fermé, c'est fermé. Mais par contre, pour le hardware, ça commence à devenir beaucoup, beaucoup plus complexe. Et en plus, on n'est pas fournisseur de hardware. Donc, si on veut faire un produit de A à Z complètement sécurisé,
en France ou en Europe, hein.
ça devient complexe. Il faudrait rapatrier la production électronique ici. Voilà.
Oui, le circuit court pour un ordinateur, c'est pas encore envisageable.
C'est compliqué.
Donc, on pourrait espérer que l'informatique s'inspire de ce qui se fait dans le domaine alimentaire. Et on est super content de voir ce projet qu'on suit depuis longtemps. Mag est impliqué dedans, pas pu participer ce soir.
Il y a un impact considérable sur la société.
Et ça démontre que le libre, ça marche. Et merci.
Merci.
À la semaine prochaine.
Salut.